Alors, comme prévu, je suis maintenant en compagnie de M. Michel Lavallée, qui est responsable, peut-être approchez un petit peu votre micro, M. Lavallée, ou vous approchez, un des deux, qui est responsable de la santé et bien-être des hommes au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Alors, bonjour, M. Lavallée.
Bonjour, M. Trudel. Bonjour, tout le monde.
Alors, peut-être, c'est pas tous les gens nécessairement qui nous écoutent qui n'ont peut-être été au courant, mais il a été lancé, donc je crois que c'est en août 2017, si je me souviens bien.
C'est bien ça, oui.
Donc, le plan de santé et bien-être des hommes, donc c'est un plan qui était sur 5 ou 6 ans, je me souviens plus.
5 ans, c'est le plan d'action ministériel pour la santé et le bien-être des hommes 2017-2022.
2022, oui, c'est ça. Alors, est-ce que j'imagine, bon là, on est en 2018, est-ce qu'il y a quand même quelques actions là, qui ont été mises en place là, depuis le dépôt du plan?
Bien sûr, là, d'abord, quand on prépare un plan d'action, il y a toute une planification qui l'accompagne et dès la sortie du plan d'action, on s'est mis à l'œuvre là, pour, dans le fond, l'implanter et initier les mesures.
OK. Parce que je sais qu'il y avait certaines actions qui étaient prévues au niveau spécifiquement dans les soins de la santé là, du ministère. Là. Il y avait des choses qui étaient faites, qui allaient être faites au niveau des CLSC, ces choses-là, je crois.
Bon, en fait, le plan d'action il est structuré en trois grandes orientations. La première orientation touche ce qui est davantage les mesures de promotion, prévention. La deuxième orientation touche spécifiquement l'adaptation des services. C'est vraiment le cœur du plan d'action.
Okay.
Et la troisième orientation touche davantage, si on veut, le développement des connaissances pour l'amélioration des pratiques.
Okay.
Parce que si on veut adapter les services, bien sûr, il faut être à la fine pointe de ce qui se fait le mieux pour pouvoir en faire la promotion puis éventuellement l'appliquer. Dans le plan d'action au niveau de l'adaptation des services, bien sûr, l'expertise en santé et bien-être des hommes, elle a été développée d'abord par les organismes communautaires.
Mm-hmm, mm-hmm.
Et il apparaissait vraiment essentiel là, de consolider les organismes eux-mêmes, c'est-à-dire l'action que les organismes, les services qu'ils peuvent offrir à la population. Donc, la majeure partie du budget associé au plan d'action a été accordée aux organismes communautaires, justement, pour consolider cette action-là. Par contre, dans le plan d'action, il y a des principes directeurs et notamment la concertation, c'est super important. Des acteurs qui vont travailler seuls peuvent faire quand même du bien là, et apporter des bénéfices pour la population. Par contre, ça va être beaucoup plus porteur s'ils travaillent en synergie avec d'autres acteurs.
Okay.
Et dans le plan d'action, il apparaissait important d'arrimer les services communautaires avec les services du réseau public.
Okay.
Ce qui veut dire que, donc, pour en venir à votre question, il y a des actions spécifiques qui visent les établissements du réseau de la santé et des services sociaux. Et il y a même un budget qui accompagne ça, ce qui fait que les établissements ont donc des engagements à respecter en vertu de l'adaptation des services aux hommes et notamment au niveau de la concertation des acteurs. Les organismes communautaires peuvent jouer un rôle au niveau de la concertation en rassemblant des partenaires autour d'eux, mais si le réseau public s'engage, ben on peut vraiment élargir là, la concertation des acteurs pour pouvoir répondre aux besoins des hommes dans les différentes sphères de besoins du réseau de la santé et des services sociaux, mais avec les différentes équipes aussi.
Est-ce que justement le personnel des CLSC, est-ce qu'ils ont eu une formation pour mieux savoir comment intervenir auprès d'un homme quand il fait son entrée là, peut-être vers les services?
Ben, en fait, la formation sur l'intervention auprès des hommes, c'est pas quelque chose de nouveau. Il y a eu différentes équipes qui ont fait de la formation aux différents chercheurs. Germain Dulac avait fait une formation, élaboré une formation qui avait été commandée par les réseaux d'organismes qui travaillent en prévention du suicide, en violence conjugale, puis en dépendance, qui a eu une vie relativement brève à cause des priorités à l'époque. Là, on se reporte à la fin des années 90. Il y a une formation qui s'appelle Intervenir auprès des hommes, qui l'initiative de deux acteurs importants en santé et bien-être des hommes, Gilles Tremblay, que vous avez reçu déjà ici, ouais, je crois, ouais. Qui est professeur à l'Université Laval en service social et qui a travaillé longtemps en CLSC et qui a élaboré cette formation-là avec son collègue Pierre Lheureux, qui lui est plutôt superviseur clinique, qui a travaillé longtemps CLSC aussi, mm-hmm. et qui travaille très étroitement avec les différents organismes communautaires, les différents groupes d'organismes communautaires. Et cette formation-là, donc, est diffusée depuis déjà de nombreuses années. Monsieur Tremblay me disait, avant la sortie du plan d'action, dans une discussion qu'on avait eue, qu'il y avait déjà 3000 intervenants qui avaient été formés.
Okay, okay.
Et ces intervenants-là étaient formés, oui, dans des organismes communautaires, mais beaucoup dans les CLSC.
OK, il y avait une... OK, aussi dans les CLSC.
Ça fait que c'est pas nouveau. Mm-hmm. Par contre, bien sûr, de la formation... ça doit être envisagé dans une perspective de continuité, mm-hmm. parce que les équipes bougent. Il y a des gens qui quittent, il y a des gens qui, soit pour la retraite, qui changent d'équipe. Puis aussi, ben, souvent la formation va viser quelques personnes dans une équipe qui vont pouvoir, après ça, partager leurs connaissances. Mais l'intérêt d'avoir davantage de personnes formées pour rejoindre plusieurs équipes, ben, c'est important. Donc, ça demeure une mesure dans le plan d'action en santé et bien-être des hommes de poursuivre cette formation-là. Et afin, dans le fond, d'arriver à une diffusion plus large, on a élaboré un guide de pratiques de gestion pour adapter les services de première ligne aux hommes. Mm-hmm. Et ce guide-là est accompagné d'un atelier qui s'adresse directement aux gestionnaires du réseau de la santé et des services sociaux.
OK.
Ces ateliers-là ont été expérimentés dans 3 régions pilotes. Il y a une centaine de gestionnaires qui ont déjà été formés.
Mm-hmm.
Et actuellement, le calendrier des ateliers, là, le calendrier de diffusion des ateliers dans les différents établissements à travers la province, parce que chaque région peut se doter et a intérêt, dans le fond, à avoir ces ateliers-là. Le calendrier est à peu près complété, puis les formations là, commencent ce mois-ci.
Okay.
Puis on a à peu près 6 mois là, pour faire le tour de toutes les régions.
OK, OK.
Fait que ça, ces gestionnaires-là, après ça, ils vont mieux comprendre les enjeux, ils vont pouvoir déterminer des priorités en lien avec les besoins en santé et bien-être des hommes, puis notamment la formation, on le sait que c'est un vecteur important là, de changement puis d'adaptation des services. Donc, ça va faire partie des stratégies qui vont être utilisées dans différentes régions. Montréal, qui est une région pilote actuellement, il y a 5 établissements fusionnés, c'est-à-dire dans la région de Montréal, hein, 5 CIUS. Le CIUS de l'Est, déjà entrepris dans son plan d'action local en santé et bien-être des hommes, une stratégie de formation globale qui est en mm-hmm. cours.
Mm-hmm. Donc, si je comprends bien, c'est pas nécessairement juste le personnel qui est directement en face de l'accueil qui va accueillir les hommes qui vont nécessairement qui sont formés, ça va être tout le personnel?
Ben, pas tout le personnel, mais ça va être bien sûr, en premier lieu, les équipes de première ligne. Alors, il mm-hmm. y a le personnel qui est à l'accueil, mais dans les équipes de première ligne, il y a d'autres intervenants que ceux qui sont simplement à l'accueil.
Ouais.
Simplement, pas dans le sens péjoratif du terme, mais dans le sens seulement à l'accueil. Mm-hmm. Parce que l'accueil, on le sait, c'est une porte très importante. C'est là que la personne peut se sentir justement accueillie, c'est et ça. Rentrer mm-hmm. Dans les services pour répondre à ses besoins. Fait que, mais il y a les équipes connexes autour qui vont soit prendre en charge au niveau de jeunesse-famille ou au niveau de différentes équipes sont appelés aussi à être formés.
OK. C'est peut-être un peu tôt, j'imagine, dans le processus, mais est-ce qu'il y a quand même des statistiques là, au fur et à mesure qui sont tenues là, par rapport à justement l'aide aux hommes? Là, est-ce, qu'il, est-ce que t'es, est-ce, qu'il, on sent, est-ce qu'il y a déjà des effets et toutes ces choses-là?
Bien évidemment, la réponse c'est il est trop tôt.
Oui, c'est ça.
Il est peut-être un peu tôt, oui, tout à fait, parce que le plan d'action n'a qu'un an et comme vous voyez, juste si on prend l'exemple là, de la démarche de mobilisation des gestionnaires dont je vous ai parlé, c'est-à-dire les ateliers pour les gestionnaires dans chacune des régions, bien sûr, on a des données par rapport aux régions pilotes. Il y a une centaine de gestionnaires qui ont été formés dans le cadre des pilotes. Mais par contre, le calendrier est complété puis les formations comptent. Fait qu'on commence. Donc, on n'est pas capable d'avoir de résultats concrets par rapport à ça maintenant. Au niveau du financement aux organismes communautaires, ben on a eu déjà une première reddition de compte, mais pour 6 mois, parce que le plan d'action est sorti au mois d'août. Les organismes communautaires nous ont transmis un petit rapport là, par rapport aux sommes qu'ils ont reçues en fin d'année financière, donc on parle de mars 2018, donc de août à mars, ça fait un peu plus de 6 mois.
C'est ça.
Puis en fait, le 22 août, le plan d'action est sorti. Ça fait que nous, on a vraiment accéléré le pas pour transmettre les fonds en septembre aux organismes. Donc, on parle de septembre à mars. Fait que c'est pas beaucoup, mais on a quelques chiffres quand même. Je peux vous donner quelques chiffres si ça vous intéresse.
Ouais.
D'abord, c'est 65 organismes qui ont été financés dans l'enveloppe 2017-2018. Ce qu'il faut comprendre, là, c'est que le financement en santé et bien-être des hommes est progressif sur 3 ans. C'est une question de disponibilité financière qui nous a amené à choisir ce scénario-là, ce qui fait que la première année, là, au niveau des organismes communautaires, on avait 1,5 million. La deuxième année, 4,3. Donc, 2018-2019, l'année qui est en cours, c'est 4,3 millions. Fait qu'on voit que c'est plus que... C'est 3 fois plus, en fait. Et pour 2019-2020, c'est 6,5 millions. Et ce montant-là est récurrent. C'est-à-dire qu'à partir de 2019-2020, ce 6,5 millions-là qui a été attribué aux 65 organismes, dans le fond, il est récurrent. Les sommes
vont continuer après.
Et dans le fond, dans leur première reddition de compte, ben, on s'entend aussi que c'est une reddition de compte en lien avec le montant 2017-2018 sur 6 mois, qui est de 1,5 million, fait qu'on peut comprendre qu'il va y avoir des résultats ou des avancées beaucoup plus importantes avec les montants qui, dont les organismes disposeront.
Les années prochaines.
Oui, c'est ça. Déjà cette année, hein, on parle de 3 fois plus.
Ben oui.
Fait que dans les chiffres, ben il y a quand même 26 organismes sur les 65 qui ont tout de suite embauché du personnel.
OK.
Souvent, c'est en lien avec l'intervention pour pouvoir offrir davantage de services à la population. Il y a certains organismes qui ont pu aussi aller chercher quelqu'un pour les soutenir au niveau de l'administration pour pouvoir justement se consacrer davantage à l'intervention, eux. Parce que quand un organisme n'a pas beaucoup d'employés, puis que la personne fait tout, ben en se dégageant de certaines tâches, ben là, elle est plus disponible
pour le reste, pour la clientèle,
pour l'intervention. Voilà. Il y a 22 organismes qui ont consolidé ou développé un nouveau programme service. Ça veut dire que, admettons, on a un service qu'on peut donner sporadiquement ou ponctuellement en fonction des ressources qu'on a puis de la disponibilité. Ben là, ils pouvaient consolider ce service-là avec le montant qu'ils avaient reçu et le donner sur une base plus régulière. Ou encore un organisme qui avait un projet de service, mais qui n'avait pas les moyens
de le réaliser.
De hein. réaliser, bien là, ils pouvaient utiliser ce montant-là. Par le passé, c'est arrivé comme ça, avec les priorités d'action en santé et bien-être des hommes, en 2009, qu'on a consolidé des services, des initiatives que des organismes avaient mis en place, mais qui n'étaient plus capables de financer. Mm-hmm. Nous, on avait évalué ces activités-là et elles ont pu devenir récurrentes.
Okay.
Il y a 17 organismes qui ont augmenté les heures de travail de leur personnel. Dans certains organismes, on donnait un nombre d'heures limité au personnel en fonction des moyens financiers dont on disposait. Donc, ces organismes-là ont pu garantir des emplois.
Stabiliser leur personnel aussi,
voilà,
là, j'imagine.
Exactement. Mm-hmm. Il y en a 16 qui ont pu maintenir des services qui étaient menacés. Donc, parfois, on met des services en place, on a des budgets qui proviennent de projets, etc. Et si le projet se termine, ben, le financement pour le projet est terminé. Et là, si on veut que le service continue, il faut trouver d'autres sources de financement. Mm-hmm. Alors ici, il y a des organismes qui avaient des services qui allaient fermer. Le projet était terminé, qui là vont pouvoir le poursuivre. Et enfin, il y a 16 organismes qui ont mis de l'argent dans les activités de promotion ou de formation.
Mm-hmm. Parce que justement, en tout cas, on l'entend souvent de différents organismes pour hommes, malheureusement, ne sont pas encore assez connus. Hein. On l'entend souvent dire que les organismes ils ont encore difficulté à recruter des hommes, par exemple, dans certains groupes d'aide, justement, parce qu'ils ne sont peut-être pas encore assez connus, ou que les hommes, peut-être, n'ont pas toujours le réflexe de faire la demande d'aide, là, mais justement, ça fait partie, j'imagine, de ça, là, quand on parle de promotion et des organismes.
Oui, tout à fait. Puis, quand on parle de promotion, moi, depuis que je travaille en santé et bien-être des hommes, ça a été toujours une préoccupation pour moi d'avoir une promotion qui est en cohérence avec le développement des services. Parce que si on fait une promotion puis qu'on n'a pas la réponse aux besoins qui est prête, bien, à ce moment-là, les personnes vont se buter à une porte close ou à une liste d'attente. Et là, ils vont se décourager puis ils vont dire, finalement, c'est pas pour moi ou c'est
ça.
Pas bon ou ça existe pas. Et donc, on se tire un peu dans le pied de cette façon-là. Donc, là, puis inversement, si on met des services en place puis qu'on fait pas de promotion puis que les services sont vides, bien là, on dit, ah, les hommes, ils veulent pas d'aide, ils vont pas, etc.
Ouais.
Alors, on a toujours essayé de travailler ces deux aspects-là ensemble. Et partout où il y a eu des nouveaux services qui se sont ouverts, ces services-là se sont retrouvés saturés.
Ah ouais,
donc,
ouais.
De dire que les hommes ne vont pas vers les services,
c'est pas vrai.
C'est relativement pas vrai. Dans le sens que, oui, d'à prime abord, ils vont pas.
Mm-hmm.
Et ça demande de la sensibilisation, ça demande un changement au niveau de la norme sociale, de la perception qu'on peut avoir de nous-mêmes, des hommes, des autres hommes, etc. Et je crois que ça, depuis une vingtaine d'années, on a vraiment progressé à ce niveau-là. Mais bien sûr, des changements de norme sociale, c'est lent.
Mm-hmm.
Et il y a des réflexes qui perdurent. Hein? On veut quand même rester autonome, fort, capable de régler nos problèmes par nous-mêmes. Fait que souvent, on attend à la dernière minute avant de demander de l'aide. Et ça peut être proche de la crise. Souvent, c'est peut-être en crise. Puis on sait que quand on laisse quelque chose aller, ben quand c'est des problèmes, ben, les situations peuvent se dégrader.
Mm-hmm.
Et là, ça a des conséquences. Pour les hommes eux-mêmes, bien sûr, mais pour tout le monde aussi, pour leurs collègues, pour leurs conjointes, leurs blondes, leurs enfants, etc.
C'est ça, il faut le voir au-delà là, de quand on dit beaucoup d'argent c'est dans ce plan-là a été investi pour l'aide aux hommes, mais ça a un effet là, sur l'entourage, comme vous dites, là, effectivement. Autant on parle de violence conjugale, mais on parle dans tous les sphères, que ce soit aussi la prévention de la santé mentale et tout ça. Donc, ça a un effet là, auprès de plusieurs personnes, là, en fait.
Bien, tout à fait. Puis, l'intervention auprès des hommes, les services pour hommes, ça va bien au-delà des problèmes parce que il y a des problèmes, mais il y a surtout aussi des habitudes de vie.
Prennent moins soin de leur santé en général, les hommes, absolument.
Voilà. Mm-hmm. Puis ça, ça peut générer différents problèmes. Fait que au niveau de l'emploi, au niveau de, des relations familiales, au niveau de la vie sociale, etc. Et par la suite, bien sûr, quand on va travailler au niveau des problèmes, souvent on associe les hommes aux problèmes.
Mm-hmm.
Et là, c'est important d'abord de se ramener à l'humain, mais aussi de dire s'il y a un problème, puis qu'on associe les hommes aux problèmes, parfois même comme la cause du problème ou un des éléments importants du problème, bien, c'est d'autant plus important d'intervenir auprès d'eux si on veut réduire les conséquences des problèmes. Donc, si on prend l'exemple de la violence conjugale, l'intervention auprès des hommes, si on veut réduire les taux de violence, est hyper importante.
Mm-hmm.
Importante pour que les hommes qui sont aux prises avec un problème de violence puissent trouver des solutions pour sortir de la violence. Et là, ça va réduire les conséquences de la violence. Et ça mm-hmm. va même prévenir des situations de violence, donc réduire la violence. Puis c'est important aussi de prendre en compte que les hommes aussi sont victimes de violence dans la vie. Au-delà de la violence conjugale mm-hmm. et même dans les couples. Donc, mm-hmm. c'est d'essayer de vraiment comprendre l'ensemble des dimensions des problèmes et les meilleures stratégies pour en réduire l'incidence et en réduire les conséquences.